L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat spécial, celui du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle, avant les élections européennes, nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui en Europe et plus particulièrement dans un pays d'Europe. À l'ordre du jour ce soir, le terme c'est État de droit et le pays c'est la Slovaquie. Nous nous trouverons en cette fin de semaine entre les deux tours de la présidentielle en Slovaquie qui, comme tous les autres pays de l'Union européenne, votera également en juin prochain pour le Parlement. Une longue séquence électorale débutée néanmoins pour ce pays en septembre dernier avec des législatives qui ont porté à nouveau au poste de Premier ministre, lui qui l'avait déjà été trois fois depuis 2006, Robert Fico, un leader d'une gauche conservatrice, hostile à l'OTAN, aux États-Unis, parfois même à des positions européennes et proche des positions de Viktor Orban sur la Russie de Vladimir Poutine. Son candidat à la présidentielle, Peter Pellegrini, est arrivé second au premier tour de ses présidentielles, tandis que le candidat pro-européen Ivan Korchok s'est hissé en tête tout en risquant de manquer de voix peut-être pour le samedi 6 avril prochain, c'est-à-dire le jour du second tour. Ce sont bien deux visions de l'état de droit, de la liberté des médias en particulier, qui s'affrontent à travers cette élection. Nous avons développé cette idée avec nos deux invités. Marion Gibat, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes professeur de droit à l'université Comenius de Bratislava et conseiller de la présidente de la République, Susana Kaputova. Avec nous, Maria Kolikova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne ministre de la Justice entre 2020 et 2022 et actuellement députée du parti Liberté et Solidarité.
Au second tour, j'aimerais m'adresser à tous les électeurs. Je devrais m'adresser davantage aux électeurs de la coalition gouvernementale, car il est évident que tous ne sont pas satisfaits des représentants du gouvernement. Peter Pellegrini s'est déclaré garant de la politique étrangère et aujourd'hui il est le témoin du fait que la République slovaque a complètement perdu sa boussole en matière de politique étrangère.
Dámy a páni, je to pre nás obrovský úspech, pretože z 9 kandidátov.
C'est un grand succès pour nous, car sur 9 candidats d'orientation politique et idéologie différentes, j'ai réussi à me hisser au second tour. Les résultats ont montré que la majorité des gens en Slovaquie ne veut pas d'un président libéral de droite progressiste, que la majorité des Slovaques ont exprimé leur intérêt pour un président qui défendra les intérêts nationaux de la République slovaque, que la Slovaquie veut un président qui n'entraînera pas la Slovaquie dans la guerre, mais qui parlera de paix. Elle veut un président dont les intérêts slovaques seront prioritaires.
Vous venez d'entendre en premier Ivan Korchok, le candidat au second tour de l'élection présidentielle, suivi de Peter Pellegrini, candidat soutenu, lui, par le Premier ministre, donc Robert Fico. Est-ce qu'on peut dire, Maria Kolikova, que cette élection est particulière puisqu'elle se situe, comme je l'ai expliqué en ouverture de cette émission, entre des législatives qui ont vu revenir au pouvoir Robert Fico et des élections européennes qui vont avoir lieu à la fin de ce semestre, comme pour tous les pays européens? Et donc, entre les deux, il y a cette élection présidentielle. L'importance du président ou de la présidente de la République est différente que dans d'autres pays?
Oui, c'est vraiment, ces élections présidentielles sont vraiment très importantes pour la Slovaquie parce que ça va être la réponse qui va gagner. Est-ce que c'est la victoire de démocratie ou est-ce que c'est le retour d'isolation de la Slovaquie quant à l'espace européen et l'espace de l'OTAN, parce que ce que le gouvernement Fico maintenant fait, c'est vraiment isolation de la Slovaquie complètement vers la Russie. Il fait vraiment très forte propagande pro-russe et Ivan Korchok, il est le symbole de l'Europe, un symbole que la Slovaquie devrait un partenaire vraiment crédible pas seulement pour l'Europe, mais aussi pour l'OTAN.
Alors,
c'est vraiment très important maintenant.
On comprend bien que vous êtes proche d'Ivan Korchok, qui est issu de votre propre parti, Maria Kolikova. Mais est-ce qu'on peut dire justement que c'est un choix du tout ou rien, Marianne Giba, est-ce que c'est un choix très difficile, très radical entre ces deux candidats par rapport à ce qui existait auparavant, puisque vous êtes vous-même conseiller de la présidente sortante Zuzana Kaputova?
Oui, tout d'abord, il faut dire que la Slovaquie, c'est un régime essentiellement parlementaire, c'est-à-dire c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique nationale en s'appuyant sur sa majorité au Parlement, ce qui est le cas. Et ensuite, il y a le président de la République qui, par son arbitrage, assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, c'est ce que dit la Constitution. Et donc, ce n'est pas le président qui gouverne, mais selon la Cour constitutionnelle, qui l'a dit explicitement, et la Constitution le dit implicitement, le président fait partie du système des freins et contrepoids pour balancer le système par ses pouvoirs.
Ça veut donc dire que depuis que M. Fitzo a repris le pouvoir, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, a repris le pouvoir et avec cette position qu'on a décrite plutôt anti-américaine, très sceptique par rapport à l'Europe telle qu'elle existe et assez favorable à M. Poutine, effectivement, eh bien le contrepoids, ça pourrait être la candidature d'Ivan Korchok dont parlait Maria Kolikova, donc qui est issue de son parti. C'est assez étrange parce que quand on pense en France qui sont la droite et la gauche, eh bien on classe monsieur Fitzo à gauche et monsieur Korchok à droite, et pourtant l'un est pro-européen, l'autre ne l'est pas. C'est assez particulier. Vous pouvez nous expliquer ça, Marion Giba?
Donc, il faut peut-être aussi faire la distinction entre ce que le gouvernement fait, son action et son discours. Ça, il peut y avoir aussi une légère différence.
Oui.
Mais il est clair que si on pense à un gouvernement d'une certaine orientation politique et dont le candidat gagne l'élection présidentielle, alors il est logique que pour le gouvernement, a priori, il serait plus confortable de gouverner que s'il y a un président qui a des positions différentes et qui peut d'une manière plus forte jouer ce jeu de contrepoids du gouvernement.
La présidente que vous servez pour l'instant, parce qu'elle est encore au pouvoir, Zuzana Kaputova, a disons essuyé depuis pas mal de mois des critiques, voire des insultes de la part du camp de Monsieur Fitzo. Est-ce que c'est aussi le quotidien, pourrait-on dire, de la politique, avec disons des expressions qu'on hésite à employer dans notre pays, par exemple, pour traiter le président ou la présidente de la République, le président d'un parti adverse, Marion Giba?
Oui, on peut observer que dans les dernières années, ce n'est pas que les années du mandat de la présidente Kaputova, le discours et la critique du président ou de la présidente de la République sont devenus beaucoup plus sévères et beaucoup moins cultivés, on peut dire. Oui.
Maria Kolikova.
Oui, je voudrais seulement quelque chose à ajouter. Comme vous avez dit, que maintenant c'est le gouvernement comme le gouvernement de gauche, c'est pas vraiment exact, parce que maintenant la coalition du gouvernement, c'est le parti de Fico, mais ils ont fait la coalition avec extrême droite, c'est Parti National Slovaque, c'est vraiment extrême droite. Et en plus, ce qui est clair, c'est que le parti de Fico consomme vraiment les électeurs de extrême droite. Alors ceux qui sont vraiment désorientés quant à la guerre en Ukraine, c'est votants, ils pensent que c'est quelqu'un d'autre que la Russie qui agresse en Ukraine, et ils pensent que c'est plutôt l'OTAN ou les États-Unis qui sont capables de ça. Et il faut dire que Fico, il travaille avec il veut pas faire rien pour orienter ses votants, mais il utilise ça seulement pour avoir son pouvoir.
Donc, effectivement, un pouvoir qu'il a déjà eu plusieurs fois, puisqu'il a été trois fois Premier ministre avant ce tour-ci, d'une certaine manière. Marion Giba, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, justement, ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la chute du mur et l'évolution de ce pays, nous montre aussi la difficulté de classifier, pourrait-on dire, les attitudes par rapport à l'Europe, par rapport à l'Est de l'Europe, et en particulier par rapport à la Russie, avec des évolutions qui sont parfois difficilement compréhensibles depuis la France où nous nous trouvons.
Oui, c'est tout à fait compréhensible que vu de la France, c'est difficile. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Depuis 30 ans, la Slovaquie a toujours proclamé vouloir s'intégrer dans les structures européennes, ce qui a été fait. On a eu beaucoup de difficultés dans les années 90 sous le gouvernement de l'ancien Premier ministre Mečiar. Ensuite,
à l'époque, je crois que la conseillère américaine Madeleine Albright de Monsieur Clinton disait que la Slovaquie était un trou noir de l'Europe du temps de Monsieur Mečiar. Donc effectivement, il y avait un regard un peu particulier, peut-être un peu méprisant vis-à-vis de ce pays.
Oui, encore que le président de la République de l'époque, Michal Kovács, était vraiment en contrepoids très très important. D'accord. De ce gouvernement. Et donc ensuite, on s'est intégré dans les structures européennes, à l'OTAN, à l'UE, et tout marchait plus ou moins bien. Depuis que la Slovaquie a adhéré aux structures européennes, jamais il n'y a eu aucun essai de sortir ou de faire sortir la Slovaquie, présentée par des partis majoritaires au Parlement. Mais ce que l'on peut observer vraiment dans ces dernières années, que le discours devient d'une certaine manière plus hostile à ces structures. C'est les effets des réseaux sociaux, de tout cela que je ne prétends pas pouvoir analyser comme il faudrait. C'est plutôt une question pour des sociologues, mais il est vrai que la désinformation et donc l'ambiance où nous vivons, surtout l'espace virtuel, tout ça fait sortir des idées qu'on n'a pas eues et qu'on n'a pas vues sortir il y a une dizaine ou quinzaine d'années.
Oui, alors effectivement, parmi ces idées, il y a des questions que l'on appelle de la remise en cause de l'état de droit. C'est le cœur de notre discussion, pourrait-on dire. On sait que, par exemple, il y a eu des faits de corruption graves dans l'entourage de M. Fico avant qu'il ne reprenne le pouvoir. Il y a donc une dissolution du parquet spécial et de la lutte anticorruption. Il y a des menaces sur l'audiovisuel public, radio et télévision dans ce pays. Il y a, d'une certaine manière, une ambiance, mais comment peut-on la qualifier, cette ambiance, Maria Kolíková, autour justement de cette question des libertés publiques dans ce pays, la Slovaquie, aujourd'hui?
Oui, il faut dire que le premier ministre Fico, il est vraiment un gouverne sans frein. Et la démonstration de ça, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est l'abolition du bureau spécial des procureurs pour la lutte contre la corruption. Et maintenant, ce sont des efforts du gouvernement actuel pour mettre la télévision et radio publique. Et en plus, c'est aussi la propagande pro-russe qui isole la Slovaquie. Et si vous demandez pourquoi ça se passe, le Fico, il est vraiment différent qu'il a été. Maintenant, je pense, et c'est clair, aussi des informations qui sont aussi publiques, des procédures pénales, qu'il a vraiment peur ce qui concerne des procédures pénales parce que ce sont pas seulement les gens proches de lui, mais aussi lui-même, qui est suspect de l'abus de l'autorité d'un agent public comme le crime. Et c'est concrètement, ça concerne pas seulement de corruption, mais aussi le cas de l'enlèvement de citoyens vietnamiens. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair ce qui concerne ce cas en France?
Non, pas, en France, pas du tout, on ne le connaît pas ce cas. Vous pouvez le développer si vous voulez pour que nos auditeurs et auditrices soient au courant.
Ouais, c'est un cas qui est, je pense, assez public en Slovaquie et en Allemagne, parce que ça concerne un citoyen vietnamien qui a été enlevé de l'espace européen, et c'est clair que c'était par l'avion qui appartient à Slovaquie, et c'était après. Il y avait lieu de première Fico et le ministre d'Intérieur Robert Kaliňák, qui est aujourd'hui le ministre de Défense. Et ce qui est clair, c'est que ces citoyens étaient dans l'avion slovaque qui appartient au gouvernement slovaque, et comme ça, il a été enlevé violemment de l'espace européen à Vietnam. Et c'est clair comme les résultats des jugements de l'Allemagne. Et en Slovaquie, bien sûr, il y a un problème dans la procédure pénale aussi maintenant, mais on le sait que ces problèmes de Fico et de Kaliňák, le ministre de Défense. Mmh. Alors, je pense qu'ils ont vraiment peur. Mmh.
Marion Gibbard. Marion Gibbard, il y a eu cette histoire très importante qui, elle, a fait beaucoup de bruit en Europe occidentale et en France, en particulier de l'assassinat d'un journaliste, Jan Kuciak. Donc, c'était en 2018, assassinat qui a été attribué à des gens qui étaient relativement proches de Robert Fico à l'époque. Il est revenu au pouvoir. S'il est revenu au pouvoir, c'est bien parce qu'une partie de la population, et plus grande partie de la population, ne lui en veut pas de cet assassinat ou de ce qui s'est passé autour de lui, en particulier des questions de corruption, et qu'il y a quand même, au sein de la population slovaque, une adhésion plus ou moins aux idées qu'il porte, à savoir des idées anti-occidentales et plutôt pro-poutiniennes. Donc ça pose des questions sur la question du suffrage universel, la façon dont il s'exerce et peut-être aussi la façon dont la population n'est pas forcément mécontente du retour de Robert Fico à ce poste.
Oui, mais il faut faire attention parce que en ce qui concerne l'assassinat du journaliste, c'était tout de même... les gens autour du Premier ministre qui ont été condamnés, parce que l'affaire n'est pas toujours terminée.
Bien sûr.
Ceux qui ont exécuté l'assassinat ont été déjà condamnés, mais au début, personne ne savait, il y a eu des soupçons, mais il n'a pas été prouvé que,
bien sûr, que
c'était fait sur ordre. Sur ordre,
bien sûr, bien sûr.
Ou par les peuples de son entourage le plus proche. Mais ensuite, bien sûr, l'atmosphère est devenue... Si une responsabilité lui a été attribuée, c'était la responsabilité politique. Pas responsabilité criminelle.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que
ce que je voulais dire, c'est que malgré ces querelles autour de cet assassinat, malgré le fait que ça a conduit M. Fico à quitter le pouvoir un temps et à revenir par des nouvelles élections législatives, il y a tout de même trouvé une majorité pour pouvoir l'élire. Et donc ça veut dire que ces idées qu'il porte, qui sont conservatrices et parfois pro-russes, assez souvent pro-russes, sont des idées qui sont partagées par une partie de la population, voire une plus grande partie de la population. C'est ce que je voulais dire.
Oui, ça c'est vrai. Mais, et puis aussi, il faut dire qu'il a perdu les élections de 2020 de façon écrasante. Mais la nouvelle coalition qui est issue de ces élections a pris le pouvoir. Et elle a gouverné d'une certaine manière différente et opposée à ses adversaires de l'ancien gouvernement. Mais cela s'est terminé par une perte de confiance du gouvernement dans l'Assemblée, où il avait une majorité très confortable au début. Donc le gouvernement a été déchu, le gouvernement de Monsieur Heger. Mmh. Et ensuite, il y a eu les élections législatives anticipées. Et tout cela a changé l'atmosphère en assez peu de temps, en 3 ans, un peu plus de 3 ans, de sorte que cela a permis le retour au pouvoir de Robert Fico. Premier ministre Fico.
18h40 sur France Culture, nous parlons de la Slovaquie dans le rapport qui peut avoir ce pays à l'état de droit, en compagnie de Marian Giba, donc professeur de droit à l'Université Comenius de Bratislava et conseiller de la présidente actuelle de la République, Susana Čaputová. Avec nous également Maria Kolíková, qui est ancienne ministre de la Justice entre 2020 et 2022 et actuellement députée du parti Liberté et Solidarité. Nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle en Slovaquie.
Rassemblés à Bratislava, ces centaines de manifestants sont venus dire leur attachement à l'indépendance des médias publics. Il y a quelques jours, la ministre de la Culture a présenté un projet de loi visant notamment à limoger le directeur de la RTVS, le groupe de radio et de télévision appartenant à l'État. L'objectif, installer un nouveau patron proche du pouvoir. L'annonce de ce projet a suscité une vive réaction dans le pays, d'autant plus que l'élection présidentielle, prévue le 6 avril, approche à grands pas.
France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre un reportage diffusé sur Euronews lors des manifestations qui ont eu lieu hier dans la capitale Bratislava. Alors, quelle est cette histoire autour de la radio et de la télévision, Maria Kolíková, vous pouvez nous expliquer en quelques minutes quelle est cette question, cette menace qui semble peser sur la radio et la télévision publique depuis quelques mois?
Oui, alors c'est qu'actuel maintenant qu'il y a que le gouvernement propose une nouvelle loi qui va seulement changer le nom de la télévision et de la radio publique. Ce qui est le but, c'est vraiment mettre la télévision et radio publique par le gouvernement, parce que cette nouvelle loi va établir des nouveaux gangs qui vont complètement contrôler la télévision et radio publique. Et les membres de ces organes, ils vont être nommés par la coalition complètement. Alors ça, c'est clair que ça va être le gouvernement de la télévision et de radio publique par Fico. Et c'est vraiment une menace pour la radio et pour la télévision qui devrait être indépendante.
Et cela, effectivement, on fait souvent le parallèle, pourrait-on dire, entre la vision de M. Fico et de son pouvoir actuel avec sa coalition et ce qui peut se passer en Hongrie toute proche. Qu'est-ce que vous en dites justement, Maria Kolíková? Est-ce qu'on a raison de faire la comparaison avec le pouvoir de M. Orbán ou est-ce que c'est très différent ce qui existe aujourd'hui en Slovaquie?
Je ne voudrais pas dire que c'est vraiment... bien sûr, vous pouvez voir des parallèles. Et quant à l'histoire de la Slovaquie, on peut dire que c'est exactement ce qui est passé quand Mečiar était le premier ministre. Il a complètement gouverné la télévision et radio publique. Alors oui, c'est vraiment correct. On peut dire que c'est un contrôle qui est parallèle en Hongrie et qui a été aussi en Slovaquie. C'était la période de premier ministre Mečiar.
Est-ce que néanmoins, Marian Giba, il n'y a pas une société civile qui s'est créée, qui s'est développée et qui existe, non pas indépendamment des partis politiques, mais qui d'une certaine manière s'exprime dans la rue? On l'a entendu par cette manifestation diffusée par Euronews hier à propos de l'audiovisuel public, mais à bien d'autres moments, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette société civile. On a peut-être tort, parce qu'on sait souvent que les sociétés civiles, quand elles s'expriment et qu'il y a un pouvoir qui devient de plus en plus fort, eh bien elles peuvent, au bout d'un certain temps, finir par se taire. Mais qu'en pensez-vous, Marian Giba?
Je pense surtout que la société civile a beaucoup développé en Slovaquie depuis ces 30 ans, depuis la chute du mur de Berlin. Et ça se voit clairement, ça s'est vu en 2018, après l'assassinat du journaliste, mais ça se voit aujourd'hui aussi, ce qui est d'ailleurs assez remarquable quand assez peu de temps depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement. Déjà, il y a eu des démonstrations assez massives dans les rues. Et en ce qui concerne la réforme de l'audiovisuel public, il y a vraiment la critique assez présente dans le média même concerné, mais aussi dans un environnement plus large, y compris les démonstrations publiques. Donc, on voit qu'il y a Oui.
Mais vous êtes spécialiste de droit public, pourrait-on dire, en tant que professeur de droit, Marianne Gibin, on peut se dire, tout compte fait, aujourd'hui, gouverner la radio et la télévision publique, ça n'a peut-être pas la même importance qu'il y a 20 ou 30 ans, quand il n'y avait que la radio et la télévision publique, alors qu'aujourd'hui, les médias, par l'intermédiaire du net, sont nombreux, y compris d'ailleurs les médias de propagande pro-russe. Donc, d'une certaine manière, pourquoi vouloir, à un moment ou à un autre, mettre la main sur cet audiovisuel public?
Voilà, ce n'est pas une question pour un professeur de droit constitutionnel. Certainement, pourquoi le faire? Parce qu'il est vrai, évidemment, que la force de la télévision publique n'est pas la même qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Mais si les médias font bien leur travail, alors ils sont généralement assez critiqués par chaque gouvernement.
Bien sûr. Quel que soit le gouvernement, d'ailleurs.
Ouais. Oui, mais il est important de faire. Si on fait une réforme, alors il faut observer aussi qu'il peut y avoir des règles constitutionnelles concernées, parce que le rôle des médias privés et le rôle des médias publics ne sont pas forcément les mêmes. Mmh. Bah, essentiellement, oui, mais vous voyez ce que je veux dire.
Bien sûr.
On peut si on réforme les médias nationaux de sorte à permettre au gouvernement de gouverner les médias. Alors, il peut y avoir le principe de libre compétition de forces politiques qui peut se voir concerné, par exemple. Il peut y avoir des actes européens qui existent dans ce domaine. Donc, ce n'est pas encore terminé parce que c'est seulement annoncé.
Est-ce qu'on peut dire justement, Marianne Gibin, que la question de l'Europe n'est pas anodine dans cette question, puisqu'on va avoir les élections européennes, mais surtout que l'Union européenne envoie des lettres d'avertissement sur ces questions de droit public, pourrait-on dire, et de liberté publique au gouvernement de M. Fico ces temps-ci?
Oui, certainement. Le fait que la Slovaquie soit membre de l'Union européenne est assez important parce qu'il y a des implications politiques, il y a des implications financières, parce que pour un gouvernement slovaque quelconque, il n'est pas indifférent ce que l'Union européenne dit.
Effectivement, comme pour Monsieur Orban, effectivement, et les négociations que doit avoir Bruxelles avec Monsieur Orban chaque fois qu'il y a des discussions communes, puisque ça fait partie de ces discussions que l'on a naturellement dans une union comme l'Union européenne. Maria Kolikova, justement, sur cette place de l'Europe, vous êtes ancienne ministre de la Justice, cette place de l'Europe dans le rapport au pouvoir en place à Bratislava.
Oui, quant à la question toujours sur la télévision et radio publique, je voudrais encore ajouter que je pense que c'est pour Fico vraiment très important mettre la télévision et radio parce que son pouvoir n'est pas vraiment très fort.
C'est une coalition en tous les cas, effectivement, c'est une coalition.
Oui, c'est une coalition, mais si vous voyez les résultats exactement des dernières élections, comme vous dites, législatives, je voudrais dire parlementaires en Slovaquie, alors cette majorité n'est pas vraiment très forte. Alors, si Fico vraiment veut être au pouvoir, il faut qu'il influence mieux aussi des autres votants en Slovaquie. Parce que ça, son pouvoir n'est pas vraiment.
Et sur la place que prend, la Commission européenne face à ce pouvoir, justement, son importance, est-ce que d'une certaine manière, la Commission européenne a son mot à dire, justement, sur l'évolution, en matière de liberté publique en particulier, l'évolution du gouvernement et de la Slovaquie?
Il faut dire qu'il y a déjà plusieurs lettres de Commission européenne, mais quand même, il y avait aussi lettre de la Commission contre la loi qui a aboli le bureau spécial des procureurs.
Anticorruption.
Et quand même, le gouvernement a continué et maintenant le bureau a été aboli. Alors, on peut voir que vraiment, Sofitso, ils n'ont pas freine. Et quand même, je pense qu'il a vraiment peur qu'il peut perdre que ça peut avoir des implications financières. Bien sûr, c'est violation de droit européen, mais quand même, il continue. Alors, ça veut dire, c'est vraiment pour lui, vraiment très important avoir le pouvoir en Slovaquie.
Marianne Giba, vous êtes conseillère de la présidente de la République actuelle, Zuzana Čaputová, qui ne s'est pas représentée. Pourquoi ne s'est-elle pas représentée à ces élections présidentielles? Est-ce que c'était pour laisser la place à d'autres candidats, comme Ivan Korčok, ou effectivement celui qui est soutenu par M. Pellegrini, qui est soutenu par M. Fico? Ou est-ce que c'était parce qu'elle était lasse, fatiguée de l'expression de ses oppositions face à son propre pouvoir?
Donc, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle était fatiguée, effectivement, qu'elle n'était pas certaine d'avoir assez de force pour un second mandat, c'est ce qu'elle a proclamé. Et il n'est pas secret de dire qu'il y a eu des aspects assez importants de sa vie privée qui peut-être l'ont fait basculer sur l'idée de ne pas se représenter, parce qu'il y a eu vraiment des attaques contre les membres de sa famille, contre ses enfants, et donc ça fait partie de l'ambiance où nous vivons, les réseaux sociaux et des attaques.
Comment vous décririez cette ambiance vous-même, Marianne Giba, quand vous imaginez que vous parlez à des gens qui ne connaissent pas cette ambiance en France, par exemple? C'est quoi cette ambiance? Parce que c'est intéressant d'avoir un peu cette description, pourrait-on dire, d'un moment électoral particulier, ce moment de la présidentielle, mais aussi d'un moment qui va se continuer avec les élections européennes ensuite.
Il y a beaucoup d'aspects de cette ambiance, mais certainement l'effet des réseaux sociaux dont j'ai déjà parlé, où chacun peut gratuitement dire à tout moment ce qu'il veut ou ce qu'il pense, sans que ce soit vérifié, sans que ce soit important. On peut s'attaquer de façon plus ou moins anonyme à chacun. Cela n'existait pas il y a 15 ans.
Oui.
Donc ça c'est le premier aspect. Un deuxième aspect que l'on observe en Slovaquie, que la lutte politique entre la coalition, l'opposition, ou un président qui est plus proche du gouvernement ou plus proche de l'opposition, cette lutte est devenue beaucoup plus brutale.
Même vulgaire,
verbal,
vulgaire, parfait.
Vulgaire, oui, vulgaire, c'est le mot, oui. Vulgaire, par rapport à ce qui pourrait se considérer comme un standard dans une démocratie digne de ce nom.
Il faut dire que Mme Čaputová a été traitée de pute américaine pendant les campagnes précédentes. Effectivement, c'est difficile à entendre, et difficile à entendre effectivement dans un régime démocratique. Donc ça, c'est l'ambiance, pour vous, l'ambiance Maria Kolíková, vous la décririez comment de votre côté?
Oui, je pense que Marianne Giba illustre vraiment très bien l'atmosphère en Slovaquie. L'ambiance politique en Slovaquie est vraiment très vulgaire. On peut pas dire que c'est vraiment la culture politique qui on pourrait attendre en Europe. Mais ce qui se passe maintenant en Slovaquie, et c'est surtout des politiciens qui appartiennent aux coalitions, c'est vraiment très agressif. Et surtout pour les femmes qui sont politiciennes. C'est vraiment très difficile, je dois dire.
Vous en témoignez personnellement. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, par exemple, de la présence d'une sorte de nostalgie communiste? On le sent, cela, Marianne Giba, dans la discussion. Le troisième candidat qui est arrivé troisième est un candidat communiste. Est-ce que cela, ça pèse encore avec une partie de la population qui se dit que tout compte fait que le communisme qu'il a connu il y a maintenant plus de 30 ans n'était pas si mauvais que cela?
Ça se dit, ça se sent d'une certaine manière, mais je ne suis pas certain que c'est aujourd'hui si fort que ce n'était il y a 10 ou 15 ans.
D'accord.
Il peut y avoir une certaine nostalgie, oui, parce qu'il n'y avait pas de pas de chômage, etc. Mais
on dit que dans les statistiques, on dit que dans les statistiques internationales, avec la Slovénie, la Slovaquie se trouve parmi les pays les plus égalitaires, justement dans cette idée, effectivement, que cette idée d'égalité est restée de la période communiste.
C'est possible. C'était un facteur important, certainement, il y a dans les années 90, les années 2000. Aujourd'hui, je pense, c'est mon propre point de vue, je ne suis pas sociologue, mais je pense que c'est plutôt moins fort que ce n'était il y a quelques années.
Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez, Maria Kolíková, que ce troisième candidat, arrivé troisième, va donner toutes ses voix à M. Pellegrini, donc pour abonder le parti de M. Fico, ou est-ce qu'au contraire, ses voix pourront se disséminer entre votre candidat, Ivan Korchok, et M. Pellegrini?
Actuellement, ce troisième candidat, c'est Stefan Harabin, il a dit qu'il ne supporte pas aucun candidat, alors ni le...
Donc ses voix vont se répandre entre les deux.
Alors, je pense que ça peut être que les électeurs qui ont donné sa voix à Harabin dans le premier tour, je pense que ça peut être qu'ils vont rester à la maison. Parce que pour eux, c'est pas Korchok, c'est pas Pellegrini qui représente les idées de Harabin. Et je voudrais pas dire que ce sont des idées communistes, ce sont des idées qui sont vraiment extrême droite, plutôt aussi des idées de sortir de l'OTAN, de sortir de l'Union européenne. C'est vraiment extrême. Alors, Peter Pellegrini, il a eu des efforts maintenant de prendre ses voix de Harabin, mais je pense pas que c'est vraiment que... ça va aller comme ça.
Merci en tous les cas à tous les deux. On aura compris que le paysage politique slovaque est très complexe, et beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer de loin, puisque même les étiquettes que les uns et les autres brandissent ne correspondent pas forcément à la place qu'ils occupent ou qu'elles occupent sur l'échiquier politique que l'on peut avoir en tête aujourd'hui. En tout cas, c'était fort intéressant. Merci à vous deux. Merci à vous, Maria Kolíková, ancienne ministre de la Justice entre 2020 et 2022. Vous êtes actuellement députée du parti Liberté et solidarité. Et merci à vous, Marion Giba, vous êtes professeur de droit à l'université Comenius de Bratislava et conseiller de la présidente de la République, Susana Chaputova. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Candice Bergeron, Fanny Richer, Anouk Sevenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec Élise Leu à la technique.